Alors Mahomet n'a pas eu la vie facile au début de sa prédication. Il n'était pas bien accueilli par ses compatriotes. On le traitait d'imposteur notamment, de menteur, de fou, d'illuminé. Les gens lui disaient, tu dis que tu es l'envoyé de Dieu, mais tu ne fais rien pour nous le prouver. Alors si tu fais des miracles, peut-être on te croira, on te suivra, mais tu n'en fais pas. Alors donc au début, c'était difficile pour lui. Alors c'est à ce moment-là que, toujours à la Mecque donc, Mahomet a sorti sa prédication par des menaces de type eschatologique. Dès qu'il annonce aux habitants de la Mecque que s'ils ne se reconnaissent pas musulmans, eh bien ils iront en enfer avec des châtiments terribles. Donc sa prédication, il l'a sortie de ces menaces. Le châtiment du feu de la Géhenne, donc, que Dieu réserve dans l'au-delà à ceux qui persévèrent dans leur polythéisme, leur orgueil, leurs pratiques injustes. Et c'est vrai que le Coran s'étend beaucoup sur les descriptions de ce qui attend les musulmans, enfin les hommes qui ne veulent pas se reconnaître musulmans. Dans cette prédication, première partie de la prédication de Mahomet à la Mecque, il y a aussi le soin à apporter à la veuve et à l'orphelin. Là, on rejoint, vous voyez, la précarité que Mahomet avait vécue avant. Et on en retrouve la trace dans ce souci qu'il a de la protection de la veuve et de l'orphelin, ainsi que dans l'honnêteté des transactions commerciales. Alors, donc, je vous le disais, les Mécois qualifient Mahomet d'imposteur, etc. Alors, un verset descend à ce moment-là. C'est Dieu qui parle. Malheur aux calomniateurs acerbes, à ceux qui calomnient Mahomet, donc. Malheur aux calomniateurs acerbes. Il sera précipité dans la Géhenne, dans l'enfer, donc. C'est le feu d'Allah. Allah, c'est Dieu. Allumé, c'est le feu d'Allah allumé qui dévore jusqu'aux entrailles. C'est dans la sourate 104, verset 1. Voilà, alors ça c'est les premiers temps de la prédication de la vie publique de Mahomet. Simplement, mais en 619, Mahomet perd son oncle, celui qu'il avait élevé, et sa femme. Il ne peut plus rester à la Mecque, il est trop pourchassé par ses compatriotes. Il n'a plus de protection. Alors, il s'exile dans une oasis au centre de l'Arabie qui s'appelle Taef. T-A-E-F. Il part là avec quelques compagnons. Mais là, il est aussi méprisé et menacé de mort. Alors, il revient à la Mecque et là, on le rejette encore. À ce moment-là, donc, entre 619 et 622, vous allez voir, c'est très dur pour lui, sa mission semble avoir échoué. Mais en 622, tout change en sa faveur. En 622, Mahomet quitte la Mecque avec les premiers musulmans pour émigrer dans une ville qui se trouve à 300 km au nord. Cette ville, à l'époque, s'appelle Yathrib, Y-A-T-H-R-I-B. Aujourd'hui, elle a changé de nom, c'est Médine. Vous avez entendu parler de Médine, hein? M-E accent aigu, D-I-N-E. Médine, c'est le mot français qui est en fait la contraction de Madinat el-Nabi. Madinat el-Nabi, ça veut dire la cité du prophète. Voilà, Médine. En fait, donc Mahomet peut émigrer à Médine parce qu'il avait noué des contacts utiles. Quand il était l'intendant, avant de se marier avec Khadija, qui était son intendant, il conduisait des caravanes vers le nord, vers la Syrie. Et donc il passait par Yathrib. Et ce que nous dit la tradition, c'est qu'en passant dans cette ville, il avait noué des contacts utiles et qui vont lui être vraiment précieux, vous allez voir. Alors 622, c'est une date fondamentale pour tous les musulmans. C'est le début du calendrier islamique, 622. Cette date, on l'appelle l'égire. H-E accent aigu, G-I-R-E. Ça vient du mot arabe hijra, qui veut dire émigration. Donc c'est quand Mahomet quitte la Mecque pour aller à Médine. On peut dire qu'il s'agit d'une étape fondatrice dans l'histoire de l'islam. Alors Mahomet arrive à Yathrib, dans cette grande ville, où il y avait de nombreuses tribus, mais des tribus rivales. Et il parvient à s'imposer comme médiateur entre ces tribus. La ville s'appellera ensuite Madinat el Nabi, Médine si vous voulez, parce que Mahomet s'impose comme chef temporel et religieux à la fois de cette ville. Médine, c'est la première cité islamique de l'histoire. Alors à ce moment-là, même le contenu de sa prédication change. Jusque-là, donc, Mahomet prêchait la croyance et l'adoration du Dieu unique, certaines améliorations morales. Maintenant, sa prédication, c'est-à-dire en fait les versets qu'il dit recevoir de Dieu, concernent aussi la politique, le droit public, le droit privé, le culte, les relations avec les non-musulmans, etc. Mahomet se hisse au rang de chef d'État, législateur et même guerrier. Et il conserve ses prérogatives religieuses. On peut dire qu'à Médine, Mahomet a exercé tout à la fois le principat et le pontificat. Le principat, c'est-à-dire les prérogatives d'ordre temporel, politique, législatif, tout ça. Et pontificat, des prérogatives d'ordre religieux. Il y a là, à cette étape de la vie de Mahomet, une confusion entre les deux pouvoirs, pouvoir temporel et pouvoir spirituel. Plus tard, je vous expliquerai comment l'islam envisage la laïcité. En fait, on ne connaît pas la laïcité dans l'islam à cause de cette étape fondatrice aussi. Mahomet a cumulé sur sa tête le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel. Pour beaucoup de musulmans, Médine, c'est le modèle idéal de l'État musulman. Alors, à Médine, Mahomet devient polygame aussi. Sa femme était morte juste avant, en 619. Il devient polygame. Alors, les sources, il y a plusieurs biographies qui ont été écrites sur lui, qui font foi. On parle de 9 à 11 épouses. Légitime, parce qu'il y a eu aussi des concubines et des esclaves. On rit toujours quand il s'agit de la femme, je ne sais pas pourquoi. Bon. Alors, la plus jeune de ses épouses, on connaît son nom, c'est Aïcha. A-I-T-R-E-M-A-C-H-A. Il l'a épousée quand elle avait 9 ans. Elle avait 9 ans, oui. Ben oui, c'est vrai. Et c'est pourquoi, quand il y a eu la révolution iranienne, vous savez, la révolution iranienne de Khomeini, en 1979, en Iran, on a rétabli une pratique ancienne, c'est que l'âge minimum de la femme, enfin de la fille, pour se marier, c'est 9 ans. Oui. En Iran, actuellement, un homme peut épouser une fillette de 9 ans. Par imitation de ce que Mahomet a fait. Alors Mahomet a aussi, pendant cette période de Médine, a fait la guerre pour plusieurs raisons. D'abord, il fallait s'enrichir. Alors on attaquait des caravanes pour prendre le butin. Ça c'est, vous savez, la tradition de la razia chez les bédouins du désert. C'était une civilisation nomade dans le désert. Donc des troupeaux, des caravanes. Et donc il y a eu de nombreuses attaques de caravanes pour prendre le butin. D'ailleurs, c'est le fait que les musulmans à ce moment-là s'enrichissaient beaucoup avec le butin, ça a été un élément de prestige qui a amené de nombreux habitants de Médine à adhérer à l'islam, parce qu'évidemment, on s'enrichissait en devenant musulman. Et puis, il y a eu des guerres aussi défensives contre les habitants de la Mecque. Les Mécois voyaient d'un mauvais œil le prestige accru de Mahomet, même s'ils étaient à 300 km, ben, ils le savaient. Et donc, ils voulaient en finir avec lui, et ils ont lancé des troupes pour aller l'éliminer. Donc il a dû mener des guerres défensives aussi. Alors, toutes ces guerres, tous ces combats, il les a gagnés, sauf une bataille qu'il a perdue. Et évidemment, toutes ces victoires accréditaient, aux yeux des populations, l'authenticité de sa prédication. On disait, c'est Dieu qui lui donne la victoire. Donc c'est bien que Mahomet est le prophète de Dieu. Donc, le Coran légitime le recours à la violence, on en reparlera bien sûr, dès lorsque la guerre a pour but de défendre la cause de Dieu et de son envoyé, donc Mahomet, les deux causes étant confondues en une seule cause. Défendre Dieu et défendre Mahomet, c'est la même chose. Et un verset coranique permet même aux musulmans de se battre pendant les mois sacrés. Il y avait dans la civilisation bédouine, durant l'année, des mois durant lesquels il était absolument interdit de recourir à la violence, soit pour prendre du butin, soit pour se défendre, ou pour faire la guerre. Eh bien, même dans ces mois sacrés, quand la cause de l'islam était engagée, il y avait la possibilité de se battre. Et donc de rompre la trêve prévue par la coutume bédouine. Voilà ce que dit le Coran à ce sujet. Combattre, c'est Dieu qui parle, combattre vous a été prescrit, bien que vous l'ayez en aversion. Il se peut que vous ayez de l'aversion pour une chose, et elle est un bien pour vous. Combattre en ce mois donc de trêve, le mois sacré. Combattre en ce mois est un péché grave, mais écarter les hommes du chemin de Dieu, être impie envers lui et la mosquée sacrée, c'est-à-dire la Mecque, en chasser ses habitants, tout cela est plus grave encore devant Dieu. Oui, donc, il est permis, pendant ces mois sacrés, de faire la guerre. C'est dans la sourate 2, versets 216-217. Ce passage-là, c'est le fondement du djihad, la guerre sainte, bien sûr, on en reparlera. Alors, il faut savoir aussi une autre chose, c'est que à Médine, pardon, je voulais vous dire, excusez-moi, d'après la tradition, Mahomet aurait organisé et dirigé personnellement 27 batailles, et il en aurait décidé 38 autres, confié à ses compagnons.